BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale KPME des experts ce matin. Avec une question simple, au fond, comment remettre la France sur le chemin de la prospérité? Parce qu'entre une croissance qui cale, des finances publiques sous tension et une compétitivité fragilisée, le sentiment qui domine ici à KPME, eh bien, c'est l'angoisse. On atteint un point de rupture, vient même de dire le président du MEDEF, Patrick Martin, à l'instant. Il était en direct sur l'antenne de BFM Business. Les entreprises demandent quoi ce matin? Elles demandent de la stabilité, de la visibilité et qu'on cesse peut-être de leur demander de financer toutes les contradictions françaises. Comment retrouver le chemin de la prospérité? Ce sera le premier des débats ce matin avec mes invités. On parlera budget aussi avec cette initiative de Bercy pour préparer le prochain projet de loi de finances qui s'annonce dantesque, très compliqué politiquement et donc très probablement dangereux pour les entreprises aussi. On parlera logement qui est devenu une bombe économique à retardement et puis on parlera également énergie après la réunion hier à l'Élysée. Comment électrifier massivement le pays sans décrocher industriellement, bref, produire plus, construire plus, investir plus avec un État qui doit économiser davantage. Toute l'équation française est là. On ouvre le débat ce matin avec nos invités en direct de KPME avec le MEDEF. Il est 10h pile, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Bruno Arcadipan. Bonjour Bruno, vous êtes vice-président du MEDEF et le président d'Action Logement. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian, économiste et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Edith Jacob. Et face à vous, Anthony Morlet-Lavidali. Bonjour Anthony, économiste chez Rex et Code. Je vous l'ai dit, le premier thème, et on va commencer par vous, Bruno, peut-être, vous êtes le principal concerné ici pour cette journée spéciale KPME. C'est quelles urgences pour retrouver le chemin, peut-être les chemins de la prospérité? Ça ne sera pas sans vous, les entreprises. Et ce matin, on entend l'ambiance ici, on écoute les chefs d'entreprise, on les a reçus tout au long de la matinée dans Good Morning Business. Le sentiment qui domine, je le disais, c'est l'angoisse. On atteint un point de rupture, vient de dire Patrick Martin, président du MEDEF. C'est pas une ambiance super saine à l'approche de la campagne présidentielle.
En effet, le climat économique nourrit, vous venez de le dire très justement, une forte inquiétude parmi tous les chefs d'entreprise français. C'est logique. Croissance atone, hausse du chômage, progression des défaillances d'entreprises, hausse du niveau des entreprises qui connaissent ces défaillances, dégradation du commerce extérieur. Enfin, tout ça sont des signaux qui ralentissent évidemment l'économie et qui angoissent l'ensemble des chefs d'entreprise. Peut-être rappeler en quelques mots que le MEDEF, dont j'ai la chance et l'honneur d'être le vice-président en charge des adhérents, ce sont 240 000 adhérents, donc entreprises.
Oui, c'est ça qu'on peut dire, Bruno, c'est que vous êtes en contact direct avec toutes ces entreprises. Vous êtes le meilleur baromètre, certainement, de l'humeur des chefs d'entreprise aujourd'hui.
Alors, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer, je vais tâcher de vous transmettre un certain nombre d'éléments. 240 000 entreprises qui, pour la plupart, sont des PME. Il faut le savoir, la moyenne de nos entreprises au MEDEF est de 47 salariés. Donc, évidemment, pour casser tout de suite un peu les codes, nous avons le CAC 40. Mais comme son nom l'indique, le CAC 40, c'est 40 entreprises et pas 240 000. Ces 240 000 sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire, évidemment hexagonal, mais aussi ultramarin. Oui. Et pour un petit nombre d'entre elles, elles travaillent partout en Europe et dans le monde. évidemment, les problématiques sont très légèrement différentes pour les très grands groupes qui restent des locomotives françaises, mais
oui, qui sont très tournés vers l'international,
au contraire, tournés vers l'international, mais sur le marché intérieur.
Et oui.
La stabilité aujourd'hui, il y en a plus. Faut être extrêmement clair. Visibilité encore moins. Et puis les erreurs politiques commises ces derniers temps sur l'économie. Puisqu'au MEDEF, on fait pas de politique, on fait que de l'économie.
On fait un peu de politique aussi de temps en temps au MEDEF, non, quand même.
Non, on évite, c'est pas notre rôle. Mais quand le gouvernement prend la décision, par exemple, de geler les allègements de charges.
On va y venir.
Après avoir annoncé une hausse
augmentation du SMIC
de 2,4%, vous avez un effet ciseau que nos amis vont commenter, mais c'est un effet ciseau mortifère.
Christian, on a vu Bruno Arcadipan a très bien posé la big picture du contexte et de l'environnement macroéconomique, hein, qui est pas bon très clairement. Il y a évidemment cette crise au Moyen-Orient qui pèse énormément. Il y avait eu la crise inflationniste avant. Le problème, il vient d'où? De l'extérieur? Est-ce que c'est un choc exogène ou aussi de l'intérieur avec une instabilité politique qui n'aide pas beaucoup à y voir clair?
Donc les deux, évidemment l'extérieur, mais l'extérieur a frappé un pays qui était très affaibli, qui n'a pas fait les réformes nécessaires. On est entré dans la crise du Covid avec un déficit de 3% quand les Allemands étaient en excédent. On s'en est jamais remis, puisqu'ensuite on est passé de moins 3 à moins 6. On est revenu à moins 5. Si on était rentré à zéro, on serait à moins 2. Donc on a un problème structurel absolument massif. On a également, sur cette situation structurelle de l'économie, une dissolution ratée et ensuite un Parlement ingérable qui est obsédé par l'augmentation des impôts, notamment sur les plus productifs, avec cette qualification de riche, mais quand on la soulève, 90% des fameux riches sont en fait des entrepreneurs qui créent des emplois. Donc si on les décourage, on va pas avoir une économie qui boume. Donc on a une accumulation de problèmes qui font que l'économie française sous-performe. Alors là, les chiffres tombent depuis un an et demi. Nous sommes passés en dessous du niveau moyen de revenus par tête de l'Union européenne, alors que nous étions à 7 ou 8% au-dessus il y a quelques années.
Pour la quatrième année consécutive, PIB par tête français est inférieur à la moyenne européenne.
Voilà, donc c'est un pays qui est dans la glaise.
Ça provient
qui a essayer de marcher dans 20 centimètres de glaise. Donc quand vous produisez un effort colossal juste pour avancer, et si vous avez un discours anti-prise de risque, anti-investissement de long terme, ben vous avez un pays qui a une croissance inférieure à celui de l'Union européenne. Et je rappelle ce dernier chiffre.
Attendez, Christian, on n'est pas si mauvais. On va voir avec Anthony, mais on n'est pas si mauvais comparativement, hein, quand on regarde.
Non, mais on a depuis 20 ans, on a une
économie. L'Italie.
Non, mais on a depuis 20 ans, on a une économie qui tourne à 1% par an.
Oui.
Et quand vous avez 57 points de PIB, de dépenses publiques, ça passe pas. Hein, c'est comme une énorme carrosserie avec un petit moteur.
Bon. La priorité, c'est les finances publiques, c'est ça. Vous êtes économiste, Anthony Morlaix-Lavidelli, chez Rex et Code, directement au contact des entreprises aussi. Qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est quoi l'urgence? On a posé le contexte macroéconomique, on voit qu'il n'est pas florissant. Qu'est-ce qu'il faut changer?
Mais ça a été très bien dit. En fait, le sujet vraiment de fond qu'on a là, c'est que oui, on a un choc extérieur qui vient pénaliser la croissance. Oui, on a une conjoncture qui n'est pas très porteuse, mais on a des problèmes structurels de fond et qui ne sont pas traités. Ça a été très bien dit par Christian. On n'a pas fait les réformes. Donc quand on vient, ça vient d'un problème de fond qui est qu'on a beaucoup de difficultés en France à comprendre que la richesse, elle est produite, créée par les entreprises. Et donc on vient mettre des pénalités et rendre non compétitif pour partie un bout du tissu qui normalement est censé nous permettre justement d'être prospère. Et ça, c'est une vraie mécompréhension de fond, je pense. Il faut être en capacité d'avoir un environnement pour les entreprises qui est compétitif au niveau européen. Et là, on voit bien, d'une part, il y a eu des efforts côté premier quinquennat Macron pour revenir dans une forme de moyenne européenne. Dans
on
un
a quand même vécu 10 ans d'un environnement à peu près pro-business, de stabilité fiscale, d'assouplissement normatif, du droit du travail.
C'est vrai, mais on n'avait pas rejoint la moyenne européenne. Donc d'une part, on est toujours à un niveau trop élevé et en plus, on est en train de s'en écarter par le haut et en créant en plus un cadre qui est non stable. Donc là, il y a une vraie instabilité en plus qui vient rajouter en quelque sorte des effets de bord et qui crée de l'incertitude et décourage pour partie des investissements et pour partie des créations d'emplois. Donc là, on a un vrai sujet de fond et c'est plus les problèmes structurels de la France qu'il faut régler puisque la conjoncture.
Bruno Arcadipan, on a l'impression qu'il y a une rupture entre l'économique et le politique ici à Cap PME. Patrick Martin l'a dit, on a atteint un point de rupture. Est-ce que vous vous comprenez encore avec le monde politique? Ou plutôt, est-ce que le monde politique vous comprend, vous, entreprise, moteur de la prospérité, comme vient de le dire Anthony?
En tout cas, on fait des efforts pour essayer de les comprendre. Et, mais je crois qu'il y a une différence très importante qui s'accroît entre la théorie et la pratique. J'ai entendu tout à l'heure le ministre Papin dire qu'on n'était pas si mauvais, etc.
Il nous a proposé un deal.
Il nous a proposé un deal, mais comme dans tous les deals, il faut connaître ce qu'il compose. Regardez, je vous donne juste deux exemples. On dit que ça va mieux. L'IPC a augmenté en avril.
L'indice des prix à la consommation,
le taux d'inflation, si on veut le dire, pour nos téléspectateurs, de façon un peu simple. Donc, cet IPC serait à 2,2 en avril, alors qu'il était à 1,7 en mars. On peut pas dire que ce soit un signal super positif. Le chômage.
Ce qu'il dit, c'est que ça reste inférieur à l'inflation qu'on voit ailleurs en Europe.
Le chômage, il est en progression aussi. Donc c'est deux facteurs forts, le taux d'inflation et le chômage. On n'en parle plus depuis 10 ans du chômage, sauf qu'aujourd'hui, il vient de dépasser la barre des 8%. On est à 8,1%. Et on fait quoi? On fait le gel des allègements de charges.
Ça, c'est un vrai sujet. Hein. On en a beaucoup parlé, les chefs d'entreprise en parlent beaucoup. Vous n'acceptez pas ce gel des allègements de charges dû à la hausse du SMIC.
C'est mathématiquement impossible. 2,4% plus le gel, ça fait près de 4,5% pour une structure, pour une PME qui a beaucoup de main-d'œuvre de services, par exemple une société de services ou une petite industrie, une PMI, etc. Je le redis, c'est mortifère.
Bon, ces éléments de charge, c'est 2,2 milliards d'économies, hein, a annoncé Bercy. Bon, on sait qu'on a 120 milliards, on va parler budget tout à l'heure. On a 120 milliards à trouver uniquement pour stabiliser la dette. C'est trop demandé aux entreprises, le gel de ces éléments de charge.
Trois éléments très rapidement.
Anthony Morlaix, David.
Ce que vient de dire Bruno est très important. On a un taux de chômage qui remonte, ce qu'on ne voit pas déjà dans le reste de la zone euro. On a l'écart le plus important défavorable à la France vis-à-vis de la zone euro depuis près de 30 ans. Donc on est déjà dans une situation dégradée. Donc demander un effort supplémentaire est probablement pas la bonne manière de faire. Deux autres éléments. Premièrement, on a des entreprises qui, nettes des aides, sont prélevées plus en France que dans le reste de la zone euro, donc déjà un écart différentiel négatif. Et sur le coût du travail, quand vous prenez la moyenne industrie-service, le coût de l'heure de travail en France est autour de 46 euros. C'est comparable à ce qu'on voit en Allemagne. Mais l'Allemagne a un PIB par tête 20% supérieur au nôtre. C'est-à-dire qu'on s'offre un coût du travail de pays riches que l'on n'est pas. Donc notre coût du travail est déconnecté de notre niveau de gamme.
Et comment explique cet écart? C'est quoi? C'est le niveau des prélèvements?
Notamment le niveau des prélèvements, ce qu'il y a entre le super brut et le super net pour financer un modèle social mieux disant, mais qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui de s'offrir. Et ça, c'est un vrai sujet.
Christian, sur le sujet des allègements de charges, moi je suis désolé, je peux prendre la perspective budgétaire. Je me dis, je dois atteindre 3% en 2029, 2030, il va falloir faire des efforts. Est-ce que l'indexation automatique des allègements de charges jusqu'à 3 SMIC est un système finalement qui nous coûte trop cher? Je rappelle qu'on est passé de 50 milliards à 80 milliards d'allègements de charges en 6 ans seulement depuis le Covid. C'est une question.
Je vais vous surprendre et j'espère que je ne vais pas me fâcher avec Bruno, mais
on peut débattre.
Je pense que le problème, c'est pas le gel des allègements de charges et le coût de 2 milliards.
Oui.
Le problème, c'est qu'on a un mécanisme de relèvement du SMIC qui ne correspond plus à la situation économique du pays. Le relèvement du SMIC, c'est l'inflation plus la moitié du revenu moyen. Ça, c'est une situation de pays en croissance forte. Disons, si on était à 2,5 ou 3% de croissance, pourquoi pas. Mais dans un contexte extrêmement dur, parce qu'en réalité, tout le monde attend la rupture, puisqu'on n'est pas capable de faire la réforme, tout le monde se dit, on aura un choc comme celui de l'Italie qui, il y a 10 ans, a été obligé d'appeler Draghi pour faire les réformes, oui. C'est-à-dire de sortir du système politique pour aller chercher un expert. On a eu la Grèce, c'est-à-dire à chaque fois on attend le mur pour faire les réformes. On a l'impression que la classe politique française ne comprend pas et qu'elle attend le mur. Dans ce contexte...
Est-ce que vous y croyez à ce mur, Christian Saint-Etienne?
Oui, je...
On alors, en parle depuis 10 ans, il n'arrive jamais. On est protégé par l'euro, on est protégé par l'Allemagne,
non,
d'une certaine mesure.
Alors d'abord, on n'est pas protégé par l'euro. L'euro, en réalité, est au service des nations compétitives. Quand vous êtes une nation non compétitive, l'euro vous étrangle. Nous avons un coût du travail qui, Anthony l'a dit, ne correspond pas à notre économie. Donc, nous avons certainement, par rapport à notre compétitivité et productivité, nous avons un coût du travail qui est 15 à 20% supérieur à ce qui serait souhaitable.
Oui.
Donc, je fais une proposition, bon, qui va faire hurler tout le monde, mais OK pour le gel des allègements de charges, mais en même temps, alors tout le monde va hurler, c'est pas un sujet. Je ferai un gel des augmentations du SMIC pendant 18 mois.
De l'indexation, non mais
et,
c'est ça.
Et donc pendant 18 mois, et non seulement ça, mais je ferai une réforme structurelle qui ramènerait l'indexation du SMIC à 20% de la hausse du salaire moyen en plus de l'inflation. Voilà.
Pourquoi? C'est pas ça le sujet, Bruno.
Je termine sur ce point. Ouais. Pourquoi? Parce que le mécanisme actuel a produit une smicardisation de la France. Aujourd'hui, le chiffre est très impressionnant. Vous avez 60% de la population active qui vit entre le SMIC et 600 euros de plus. Et avec des gens qui, lorsque vous commencez en bas de l'échelle, votre possibilité de progression est extrêmement limitée. Donc on a un pays qui s'est paupérisé et qui a cassé les perspectives de croissance. C'est pour ça que, pour la première fois depuis une quinzaine d'années, je vais dire une horreur supplémentaire. Non seulement je pense que le mur arrive, mais que c'est souhaitable puisque c'est le seul moyen de faire les réformes.
Bon, vous êtes d'accord avec ça, un deal de allez, les entreprises font un effort, mais en contrepartie, on réforme le système, quoi.
Je veux pas me répéter, mais c'est l'effet des deux qui est dramatique, c'est l'effet ciseau, donc hausse du SMIC et gel. Je reviens une seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le mur.
Oui.
Mais je vais vous dire, le mur, on commence à le regarder de plus en plus près. Je vais vous donner un exemple précis qui est un élément essentiel lorsque l'on regarde le monde économique et notamment le niveau de difficultés que rencontrent les entreprises. L'AGF.
Oui.
L'AGF, en fait...
Expliquez pour ceux qui nous écoutent ce que
c'est.
C'est
l'outil qui permet d'avancer les salaires, notamment aux entreprises qui sont en redressement judiciaire.
Voilà.
L'AGF a subi une hausse de 23% au premier trimestre 2026. Donc c'est énorme, 23%.
C'est un indicateur avancé très sensible de l'économie.
Et ces défaillances mettent en danger, hein, puisque lorsqu'on est en redressement judiciaire, malheureusement, souvent, ça va vers la liquidation, 75 000 emplois. On a le nez sur le mur.
Voilà, c'est ce qu'il est dit hein, ce matin, hein, le mur des défaillances arrive. On a déjà eu Anthony Morlaix à Vidali, 70 000 défaillances l'année dernière. Il faut donner un peu des repères. Normal, en temps normal, quand l'économie vivote à 1-2% de croissance, on est à 50 000 défaillances par an. C'est normal que les entreprises naissent, c'est normal que certaines meurent aussi, le capital tourne. Là, on est quand même à des niveaux très élevés. Et si j'entends ce que me dit Bruno Arcadipiane, c'est le pire reste à venir.
Mais en tout cas, on n'a pas atteint le fameux plateau haut qu'on espérait atteindre. Justement, on est en train de continuer de progresser. Et je confirme ce que disait Bruno. Nous, on travaille avec l'AGS et on voit bien ces indicateurs avancés qui montrent que pour l'instant, ça continue de progresser à des niveaux qu'on n'anticipait pas il y a encore un an. Donc là, ça devient très inquiétant. Ce qui est paradoxal, c'est de demander des efforts assez importants à quand même l'agent qui semble le plus fragilisé à ce stade. Alors, on sait bien que du côté de l'État, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais les entreprises entrent dans le dur. Enfin, véritablement, les bilans se dégradent, les trésoreries aussi. Donc, c'est quand même étonnant.
Pardon, je vous coupe, Anthony. Votre dernière étude, Rexecode BPI France, était plutôt optimiste la semaine dernière sur la trésorerie et les perspectives d'investissement des entreprises.
Ce que l'on dit, c'est qu'à ce stade, ça tient. faut pas oublier qu'elles sont plus fragilisées qu'avant le choc de 2022. Donc à partir d'un meilleur point en 2022, là elles ont, il y a une marche à la baisse qui a été franchie et donc elles rentrent dans le choc plus fragilisées. Et le pire reste à venir. Donc je crois qu'il faut quand même être prudent. Et à la fin, si les entreprises sont trop affaiblies, on sait bien, c'est quand même des gros problèmes de croissance dans la durée. Et on voit bien qu'on a un problème de potentiel fondamentalement. C'est ça qu'il faut arriver à redresser et demander un effort aux ménages, évidemment bien réparti. Mais ça me semble assez sain. Aujourd'hui, on se retourne trop vers les entreprises comme si les marges étaient de ce côté-là. Et ça me semble être un cercle très vicieux que la France aime alimenter. Et c'est pas le choix de nos voisins européens. C'est ça aussi qui est paradoxal. C'est que on est à contre-courant absolument de ce qui se passe. Mais de l'autre côté de la frontière. Donc je veux dire, faut être quand même très prudent parce que les divergences, à la fin, ça coûte cher dans le temps. Et je ne pense pas qu'on soit, il y a un mur devant nous. En revanche, le lent déclin, j'y crois beaucoup. Et je pense que gérer ce déclin-là est quand même très mortifère. Et on voit bien, ça crée des problèmes de cohésion sociale absolument monstrueux dans le pays.
Christian, le pire est à venir, hein, nous dit Anthony. Et cette discussion qui, elle aussi, est à venir. Le pire, ce sera peut-être le prochain projet de loi de finances avec cette grande discussion sur qui doit payer la crise, qui doit payer les financements absolument indispensables à venir sur la transition numérique, démographique, environnementale et écologique. Bercy vient de lancer cette initiative. C'est les ministres de l'économie et du budget qui ont demandé à 4 experts indépendants, dont Xavier Jaravel, invité récurrent des experts, de faire des préconisations d'ici le mois de juillet sur les voies et moyens de redresser les comptes publics. C'est utile ce genre de rapport ?
C'est la énième commission. Les premiers exercices, ça a été les commissions sur la dette il y a une quinzaine d'années. Donc on va de commission en commission. Alors c'est un mécanisme que j'avais décrit dans un livre. La particularité de la France, c'est qu'à peu près sur tous les sujets, une fois qu'on a longtemps parlé d'un sujet, on pense qu'il est résolu, hein. Alors l'emblème de ce sujet, de cette approche, ça reste la TVA sociale, qui est une idée française des années 90. Oui. On en discute pendant une dizaine d'années. L'Allemagne la met en œuvre en 2007. Elle fonctionne également au Danemark. On a observé ces épisodes allemands, danois. On s'est dit, ben donc l'idée est bonne. Et puis on a refermé le dossier. On l'a pas appliqué en France. Donc on continue.
Ah, c'est l'effet Borloo, hein. Jean-Louis Borloo l'avait proposé après l'élection présidentielle de 2007. Ça avait fait perdre des dizaines de postes.
Oui, mais
à l'UMP,
c'était pas le moment de l'annoncer. Mais le sujet important aussi, c'est que on sait très bien. Par exemple, il y a Villeroy de Galhau, le gouverneur sortant de la Banque de France vient de rappeler le déficit récurrent du système de protection sociale. Moi, j'ai fait une proposition depuis une dizaine d'années que je répète dans mes chroniques et dans mes interventions. C'est de mettre une règle d'or sur la sécurité sociale avec interdiction du déficit de la sécurité sociale. Il y a que comme
cette année.
Dans un pays qui n'est pas capable de s'auto-réguler, il faut des règles contraignantes. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je dis qu'on va dans le mur avec un affaiblissement continu. Les conséquences, il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est quelque chose qui n'est jamais évoqué sur les flux migratoires. On parle toujours des entrées migratoires autour de 300 000, dont la moitié sont qualifiées, plus ou moins, et l'autre moitié non qualifiée. Mais on occulte complètement que du fait de cet affaiblissement, 80 à 90 000 jeunes bien formés au niveau des masters et des ingénieurs partent en Italie, même en Italie qui est devenue le quatrième exportateur mondial l'année dernière, en Allemagne, au Canada. Donc c'est une hémorragie des qualifiés. Et donc cet affaiblissement lent et mortifère qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, il continue. Donc c'est une variante du mur. Mais moi, je préférerais à ce point-là un mur qui nous oblige à faire les réformes plutôt que de continuer à s'affaiblir lamentablement.
Bruno Arcadipane, cette TVA sociale, on va parler un peu des mesures budgétaires qu'il faudra pousser dans le prochain projet de loi de finances. Cette TVA sociale, vous la proposez, au MEDEF, vous l'appelez de vos voeux.
On l'appelle de nos voeux, avec cependant un maintien, évidemment, d'une TVA extrêmement basse, comme on la connaît aujourd'hui, sur les produits de première nécessité, pour le dire de façon très claire. Et évidemment, pas de TVA sur le logement, qui est la première dépense des Français.
On va y venir.
Donc, évidemment, si on met une TVA... Si c'est une hausse de TVA, pour être clair, hein, une hausse de TVA normale, je vois pas ce qu'elle aurait d'ailleurs de social. On imagine, on a projeté près de 18 milliards d'euros de résultats sur ce type de produit, 18 milliards d'euros. Mais il faut pas.
Ouais, un point de TVA, c'est quoi? C'est 15 milliards d'euros à peu près, quoi, si on augmente.
Il faut pas s'arrêter là. On propose aussi d'autres choses. Aujourd'hui, on a une partie de nos retraités qui touchent des pensions de retraite extrêmement élevées. Est-ce que ces derniers ne pourraient pas, évidemment, là aussi, contribuer comme nous sommes un certain nombre à le faire? Mais surtout, et le plus important pour nous, c'est de repenser le financement de la protection sociale.
Oui.
Cette protection sociale, il faut quand même imaginer qu'elle a été créée dans un contexte sociétal totalement différent. Et ça, personne n'en parle, personne ne veut le prendre en compte. Et pourtant, les curseurs ont totalement changé. Et aujourd'hui, on est dans l'obligation de faire des économies. Et on finance tellement sur le travail qu'à un moment donné, on va aller vraiment à un point de rupture.
Bon, ça va être un des grands débats de la présidentielle, évidemment. Comment rapprocher le salaire brut du salaire net, ce qui pose évidemment la question de notre modèle social, Anthony.
Oui, tout à fait. Je reviens sur la TVA. C'est peut-être la moins mauvaise mesure en termes de hausse de prélèvement. Mais on est encore en train de parler de hausse de prélèvement.
On est en dessous du niveau moyen européen au niveau
TVA. C'est
vrai,
parce qu'en fait, on surtaxe les facteurs de production, le capital et le travail en France. Et on a plutôt tendance à sous-taxer légèrement la consommation, bien qu'on soit quasiment au taquet partout. Il faut bien avoir en tête que quand on gèle les allègements de charges sur les bas salaires, ça s'appelle une hausse des prélèvements. Donc en fait, c'est une taxe sur le made in France. Il faut appeler un chat un chat. C'est quand même juste ça. Mais on ne parle toujours pas de baisse de dépenses. Et les quatre économistes qui vont être réunis, c'est une forme de cadrage, voire de caution, pour que le gouvernement puisse s'appuyer aussi sur le fait de documenter des baisses de dépenses. Parce que les oppositions, on n'arrive quand même jamais à débattre de baisses de dépenses publiques, ou en tout cas au moins de moindre augmentation. On est toujours en train de parler de hausse de prélèvement, ce qui est quand même quelque chose.
Donc ça va être ça l'idée, c'est de préparer un peu les esprits à faire des efforts pour les années à venir.
Avec des personnes crédibles qui soient en capacité de dire que probablement il y a un sujet sur les dépenses que manifestement toutes les entreprises savent, mais que dans le débat public on a beaucoup de difficultés à faire passer et à acter.
Vous y croyez, Christian?
Il n'y a pas de majorité actuellement.
Ça n'arrive jamais, donc.
Il n'y a pas de majorité actuellement à l'Assemblée nationale pour des baisses de dépenses. Il faut rappeler le cadrage des dépenses publiques en France, c'est 57 points de PIB.
1700 milliards d'euros.
Oui, bientôt 1770. Et donc, le point clé, c'est que il faut jamais, de mon point de vue, comparer le poids des dépenses publiques à la moyenne européenne, parce que la France étant le pays qui dépense le plus, on fait fortement monter la moyenne.
Oui.
Quand on compare le dépense publique de la France à la moyenne des autres pays de la zone euro, nous sommes 21 pays dans la zone euro, si on compare la France aux 20 autres, on a 8 points de PIB de plus de dépenses publiques. Alors, j'ai fait des débats depuis 20 ans.
Le sujet, c'est les retraites, Christian. C'est parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Les autres pays ont des fonds de pension.
Oui, mais c'est pas seulement les retraites. C'est pas seulement les retraites. 57 points de dépenses publiques, dont 33 points de protection sociale. Donc, on est à 8 points de PIB de plus que la moyenne des 20 autres pays de la zone euro, dont 5 points sur la protection sociale, dont 2,5 points sur les retraites. Donc, effectivement, il y a un sujet sur les retraites, mais il y a aussi un nombre d'allocations infinies qui d'ailleurs contribue à développer l'assistanat sans insertion, là aussi avec un développement par exemple du RSA sans contrepartie de travail. On avait envisagé de mettre en place des contreparties, mais ce n'est pas encore mis en œuvre. On a des règles sur le chômage qu'il faudrait aligner sur l'Allemagne, même dans l'intérêt des chômeurs. Hein, on le sait tous ici, aujourd'hui on peut rester au chômage 18 mois, c'était un peu plus il y a quelques temps.
Oui.
Pour les plus âgés, c'est 2 ans. Or, il y a des études internationales parfaitement connues. Quand vous avez 18 mois pour chercher un travail, dans tous les pays, les gens se mettent sérieusement à chercher les 6 derniers mois. Or, quand vous êtes employeur et que vous voyez quelqu'un arriver qui a profité pendant un an des allocations et qui cherche tout à coup un boulot parce que ça s'arrête, ben, vous n'allez pas le prendre s'il y en a un autre qui a cherché du boulot juste après la fermeture de son entreprise ou la réduction d'emploi dans son entreprise. Et donc, les gens vont se retrouver gros gens comme devant, c'est-à-dire qu'ils vont aller la tête enfarinée chercher un emploi et l'employeur va dire, ben, ça fait 18 mois que vous travaillez pas, pourquoi je vous emploierai? Donc, la règle en Allemagne, c'est un an de prestation. L'autre point fondamental, c'est qu'il faut avoir travaillé 6 mois pour toucher les retraites. En Allemagne, il faut avoir travaillé 1 an. Si vous faites ce genre de réforme, vous avez 15 milliards d'euros d'économie. Dans les collectivités locales, on a 10 points de dépenses au niveau simplement des communes et interco. Là, il y a vraiment 10 milliards à trouver également.
On est à 25
voilà.
milliards.
Vous savez peut-être pas, mais la France a la moitié des tennis et des piscines de l'Union européenne. Alors, c'est très agréable, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut se le payer? Voilà. Donc, il y a une réflexion sur la nature des services publics à rendre.
La France est un paradis où tout le monde croit vivre en enfer, hein, comme le dit Sylvain Tesson, cher Christian. Un dernier mot, allez, Bruno, sur cette réforme de l'assurance chômage qui est restée dans les cartons. Gabriel Attal l'avait mise en place pour resserrer un peu. C'est quelque chose que vous appelez de vos voeux au MEDEF?
Ah, totalement, totalement. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que on a déjà démarré nos travaux sur la présidentielle. Pour l'instant, on ne reçoit que les chefs de groupe, puisqu'on attendra un peu, évidemment, pour recevoir les candidats à la présidentielle. Mais ce sont des sujets.
Ils vous ont convaincu, vous les avez vus, vous faisiez partie des réunions.
On a vu Gabriel Attal, mais on a vu Édouard Philippe, on a vu Monsieur Roussel, enfin on a vu
Jordan Bardella,
un certain nombre, on les verra tous de toute façon. Et à chaque fois, ces sujets reviennent. Et il est clair que la première économie qu'on doit faire, c'est celle de que l'on ne dépense pas. Il faut arrêter en permanence de vouloir créer des impôts, d'augmenter ces derniers de baisser les allègements, ce qui revient exactement à la même chose, pour ne jamais regarder le problème en face. On doit s'attaquer aux dépenses de la sphère publique et aux dépenses sociales qui sont, de façon générale, le problème majeur de notre pays.
Allez, il y a deux chantiers auxquels on va beaucoup parler aussi durant la campagne présidentielle. C'est évidemment le logement, véritable sujet économique. Vous êtes un spécialiste, Bruno Arcadipane. Et l'énergie, bien sûr, pilier de toute l'économie française. On va parler de ces deux sujets très importants juste après cette coupure pub. Ne quittez pas, on revient tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour ici à Station F pour cette journée spéciale CAP-PME en partenariat avec le MEDEF. On va parler d'entreprise tout au long de la journée sur l'antenne de BFM Business en direct. On est encore ensemble pour une demi-heure de débats et de controverses avec Bruno Arcadipane, vice-président du MEDEF et président d'Action Logement, Christian Saint-Etienne, économiste et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe, et Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Axécode également. On va parler logement maintenant avec vous, Bruno. Vous êtes un grand spécialiste, vous êtes le président d'Action Logement, une thématique que vous connaissez bien. Je voulais qu'on commence simplement par cette étude de l'Institut des politiques publiques qui a été remise hier au ministre du Logement, justement, sur l'expérimentation du plafonnement des loyers. Ça fait quasiment 8 ans qu'on y est. Et François Bayrou à Matignon, à l'époque, avait commandé auprès de l'IPP une évaluation de ce mécanisme qui existe dans une soixantaine de villes aujourd'hui, hein, qui a fait Florès, pour voir si c'était efficace ou pas. Ce mécanisme, cette expérimentation, en tout cas, prend fin d'ici 6 mois. Et les conclusions sont, bon, certains disent équilibrés, mais enfin, beaucoup voient une critique assez forte du plafonnement des loyers. C'est que, grosso modo, ça a pu permettre de ralentir la progression de 2, 3, 4% dans certaines régions, dans certaines zones tendues. Ça a profité pour beaucoup en Seine-Saint-Denis notamment, mais qui a des effets délétères sur le moyen et sur le long terme. Pas de rotation dans les appartements, une dégradation de la qualité du logement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces conclusions, Bruno Arcadipane?
Alors, l'encadrement des loyers, voilà une vraie fausse bonne idée.
Ah, pour un vrai sujet, hein, les difficultés de logement existent.
Non, mais pour être très clair et que tout le monde puisse comprendre facilement, on traite la conséquence, mais on ne traite absolument pas la cause.
Ah.
Donc, on a un effet boomerang, qui est de scléroser encore un peu plus un marché qui est totalement sclérosé. La problématique en France, c'est que le parcours résidentiel est totalement arrêté. Il y a quelques dizaines d'années, une vingtaine d'années, vous accédiez à un logement social, vous passiez ensuite souvent par un logement intermédiaire, puis un logement privé, et vous accédiez à la propriété.
Oui.
Ce parcours est aujourd'hui totalement arrêté.
Qu'est-ce qui bloque ?
Ce qui bloque, c'est tout un tas de réglementations. Ce qui bloque, c'est en 2018, Monsieur Macron qui décide de mettre une taxe sur les bailleurs sociaux qui s'appelle la RLS, qui a ponctionné depuis 2018 1,3 milliard d'euros sur le marché. Ce qui bloque, c'est que Monsieur Édouard Philippe souhaite en 2019 et 2020 nous ponctionner au niveau du groupe Action Logement 1 milliard, puis l'année d'après 500 millions d'euros. Ce qui bloque, c'est que on a des normes qui sont totalement dingues. Je pense que à part le monde de la santé, le monde du logement et de la construction est celui qui est le plus encadré. Ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. C'est libérer le marché, libérer l'économie et relancer ce foutu parcours résidentiel pour que les Français puissent évoluer dans leur vie et en même temps dans leur logement.
Oui, Anthony Morlet, Lavie Dali, le vrai problème, c'est la construction finalement. Puis c'est effondré, c'est l'offre.
Bien sûr, mais c'est des choses qu'on sait depuis mais Mathusalem. Enfin, on ne découvre pas l'Amérique, là. On sait bien que quand on bloque les prix, on finit par tuer l'offre, parce qu'à la fin, il n'y a plus de rentabilité pour le propriétaire. Donc, je veux dire, on ne découvre rien, on ne fait que mesurer des effets que la théorie nous enseigne déjà correctement. Et puis, également, sur le logement neuf, on voit bien, l'excès de normes, à la fin, ça fait monter les coûts, et on se retrouve dans une situation de squeeze, où les ménages n'ont plus les moyens, effectivement, de se loger à des prix décents, et ça pèse quand même significativement, à la fois sur le pouvoir d'achat, mais même plus généralement, sur la satisfaction des ménages. Donc, cette étude, elle tombe à point nommé, mais on ne découvre rien de spectaculaire. On le savait, ça ne marche pas. Il faut absolument libéraliser davantage le marché. Ça, c'est évident. Tout ce qui est monstrueusement encadré finit très souvent mal. Et on en a encore un exemple, je trouve, très clair. Là.
Christian Saint-Etienne.
Bon, alors, les chiffres globaux, hein, on est tombé à 200 000 mises en construction de logements.
On dit qu'il faut 500 000 constructions.
Alors, il y a un débat
maintenant
là-dessus, c'est entre 400 et 500, mais ce qui se passe, c'est que il y a une décohabitation également, même si la population n'augmente pas beaucoup, qui fait que suite au divorce, suite
oui,
à l'installation des jeunes dans des logements, on a besoin donc d'à peu près au moins 400 000 logements par an. Alors, Action Logement fait un gros boulot, 40 000 mises en logement sur les 200 000 où nous sommes tombés. Je ne sais pas si vous pourriez doubler pour remonter à 400 000. Mais le point important aussi, c'est la nature de l'offre. Alors, il y a une réglementation hallucinante. Je signale d'ailleurs que l'Allemagne est en train de revoir sa réglementation, que les États-Unis sont en train de revoir leur réglementation.
En quel sens ?
En termes de réglementation du logement et de contraintes liées notamment à la transition écologique, il ne s'agit pas de produire sale. On sait aujourd'hui produire des logements à énergie positive ou nulle. Simplement, il y a un niveau de contrainte qui fait qu'on bloque le développement. Aussi, on a pris des décisions... On a supprimé, Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation. C'était le revenu des mairies en contrepartie de la construction. Donc le maire aujourd'hui dit, moi je vais construire, ça me coûte très cher, je vais devoir mettre en place des écoles, j'ai rien en contrepartie.
C'était une erreur selon vous?
Ça a été une grosse erreur, fait perdre plus de 25 milliards d'euros en recettes de l'État. Si d'ailleurs vous prenez 25 milliards sur 8 ans, vous êtes à 200 milliards qui sont allés dans la dette publique. Donc c'est une erreur colossale d'Emmanuel Macron, mais c'est ce qui le fait élire en 2017. Oui. Ça montre aussi la fragilité du système démocratique, c'est que on a du mal à expliquer les conséquences des mauvaises décisions et on n'arrive pas à expliquer que quand on a un problème, il faut peut-être regarder du côté de la cause que si on veut modifier les conséquences. Il y a un adage qui dit généralement on s'élève contre les conséquences de causes qu'on adore. Donc il y a un moment, il faut réformer tout ça. Alors, la crise massive du logement est catastrophique. parce que le BTP, c'est une activité non délocalisable. Là, on a perdu une centaine de milliers d'emplois depuis 3 ans. On continue de perdre. C'est des compétences qui sont perdues. Quand on voudra relancer, ça va être extrêmement difficile.
Et oui, ce qu'on a connu dans l'industrie.
C'est la même chose quand on a voulu renoncer le nucléaire. On a dû aller chercher des soudeurs aux États-Unis en avion pour relancer le nucléaire. Donc, c'est pour ça que, outre les discussions qu'on a eues depuis tout à l'heure sur la nécessité de contrôler la dépense publique, je pense qu'il y a une autre action absolument majeure. On a impérativement besoin d'une planification stratégique à 7 ans pour qu'on se dise, à la fois pour relancer le logement, l'industrie, les infrastructures et remettre le pays au travail, on a besoin d'une vision à 7 ans partagée par l'ensemble des acteurs, ce qui était le cas dans le plan à partir de 1945. Je rappelle qu'à cette époque, on était à 4,5% de croissance par an. Je rappelle aussi que c'est Mitterrand qui a supprimé le plan. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de revenir à la planification bureaucratique de la 4e République, mais on a besoin d'une planification
d'être
stratégique.
D'être un peu stratège et de vision moyen
voilà,
long terme.
Il suffit de regarder le plan chinois qui vient d'être voté par oui. l'Assemblée du Peuple. Il prévoit des investissements colossaux dans les nouvelles technologies sans avoir un parti totalitaire aux États-Unis par l'intermédiaire du département de la défense aux États-Unis. Vous avez, à l'intérieur de ce département, vous avez en réalité un véritable ministère de l'industrie avec un budget annuel d'une centaine de milliards de dollars qui investit également sur les technologies. Donc voilà, il n'y a plus de planification, il n'y a plus de vision et on essaye juste de tout faire tourner la baraque comme un mini boutiquier, c'est-à-dire qu'on a un État qui, au lieu de contribuer à l'essor du pays, le freine et le casse.
Bruno Arcalipane, peut-être rappeler l'action d'Action Logement et puis votre réponse à ce que vient de dire Christian.
Alors, Action Logement, c'est un groupe paritaire qui aujourd'hui détient 1 200 000 logements, avec un bilan d'un peu plus de 100 milliards d'euros. Et on a doublé notre production depuis une grande réforme que les partenaires sociaux ont menée en 2017. Et aujourd'hui, c'est le groupe le plus efficient en Europe. On est une référence en France, mais on est une référence également au niveau européen, puisque les autres pays ne sont pas dotés d'un outil comme celui-là. Notre ressource est d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Elle est apportée par les entreprises
oui.
à travers le 0,45% et non plus
et non 1%. Plus le 1, il faut le rappeler.
L'État étant passé par là, il nous reste donc 0,45% des entreprises de plus de 50. Un peu plus de 3 milliards d'euros. Depuis quelques années, on investit entre 13 et 14 milliards d'euros parce qu'on a une très bonne gestion des loyers, de la vacance, etc. On a un groupe, je l'ai dit, avec une certaine efficience. Et donc, on est le premier constructeur, loueur de ce pays.
Rappelez-nous les chiffres de la construction annuelle du côté d'Action Logement. Dans le micro.
Nous, on construit 40 000 logements et on réhabilite totalement voilà. 40 000 autres logements. Et la construction de logements sociaux en France est à peine à 100 000 logements. Donc, vous voyez le poids que l'on pèse sur la production de construction neuve. Pourquoi on le fait ? On le fait tout simplement parce que dans beaucoup de zones du territoire, enfin de France, on n'arrive plus à embaucher parce qu'il y a très peu de mobilité.
Et oui.
Donc, on est sur une autre problématique.
C'est un frein terrible pour l'emploi.
Le 0,45% devrait être totalement dédié aux salariés du privé. Et pourtant, on est comme les autres bailleurs, soumis au quota préfectoral, au DALO, etc., etc. Mais je reviens rapidement sur la question de fond.
Oui.
Le vrai problème, c'est quoi ? C'est le manque d'offres. Alors, c'est vrai pour beaucoup de choses en France, mais particulièrement pour le logement. Si vous faites une moyenne des 40 dernières années, les deux dernières, donc 2025 et 2024... moins 25% par rapport à la moyenne des 40 dernières années. C'est catastrophique.
Sur la construction.
Catastrophique dans la construction.
Eh oui.
Donc, comme la problématique, c'est le manque d'offres, vous avez bien compris que c'est dramatique.
Bon, ça
et la construction, c'est aujourd'hui la perte de production, c'est 1% du PIB.
Oui, ça c'est absolument catastrophique. Bon, on va pas non plus se suicider malheureusement. Donc la
question. Pour les solutions.
La solution, ça serait effectivement de repasser le 0,45 à 0,60. Ça permettrait de relancer la construction pour les travailleurs. Voilà, on a adopté il y a une quinzaine d'années, à la fois pour le logement, la santé et l'ensemble des prestations sociales, une vision où on a des droits mais pas de devoirs. Et donc notamment le Action Logement, c'était fait pour les travailleurs du privé qui travaillaient et qui devaient avoir un logement. Donc il faut revenir à cette discipline en augmentant les moyens. Pourquoi ? Parce que si on a besoin d'une réindustrialisation, hein, je rappelle que nous sommes le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne,
eh oui, parmi les grands pays. Sous les 10% de la valeur ajoutée.
On a une industrie manufacturière qui est tombée à 9,5 points de PIB au lieu de 14,5 dans les autres pays. C'est 5 points là nous tue. Mais si on devait relancer et progressivement revenir à la moyenne européenne, c'est 1 million d'emplois productifs. On les met où ? Surtout que c'est souvent dans les métropoles ou les grandes villes de province. Et dans toutes ces zones tendues, il y a des besoins massifs de logements. Donc il faut agir par l'intermédiaire d'Action Logement. Mais il y a une autre piste que je propose depuis longtemps. Il faut également massivement développer le logement intermédiaire. Et pour développer le logement intermédiaire, on a les HLM. Il faudrait développer un mouvement et un système de HLI, c'est-à-dire d'habitation à logement intermédiaire.
Le logement intermédiaire, on explique, Christian, pour ceux qui nous écoutent, voilà. C'est un niveau supérieur au HLM, au logement
voilà,
social,
c'est un niveau supérieur
dans les prix de marché.
Et puis, il y a une autre chose. Il se trouve que j'ai fait des interventions devant des HLM. J'ai appris beaucoup de choses, évidemment. Notamment, par exemple, il y a une grande société d'HLM en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'appelle Région Sud, je crois, maintenant. Et dans cette région, il y a une société d'HLM qui gère à peu près 250 000 logements. Et le président m'a dit, et ça rejoint ce que disait Bruno tout à l'heure, sauf que lui, il gère le truc. Oui. Il m'a dit 60% des résidents dans mes HLM sont soit des immigrés, soit sans travail, soit des retraités. Et il n'y avait que 40% des gens qui avaient un travail. Ouais. Donc là aussi, il y a des propositions de réforme. Le HLM ne doit pas être un logement à vie, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réévaluation.
Et oui, on sait qu'il n'y a plus de rotation.
Une réévaluation de tous les 3 ans. Je note au passage, très peu de gens le savent, que dans des HLM à Paris bien placés, les gens sous-louent à Airbnb. Donc il faut arrêter tout ça. Bon. Hein, et donc il faut restructurer
le mouvement du logement
d'HLM
social.
Et doubler la production d'HLI, logement intermédiaire réservé aux travailleurs. Strictement réservé aux travailleurs, sans intervention préfectorale ou autre. Et dernier point, il nous manque à peu près 100 000 logements étudiants. Ce sont des chambres, mais il nous manque également 100 000 logements pour les jeunes travailleurs. Ça peut être des studios de 25 mètres carrés. Et là aussi, Action Logement et ce mouvement de HLI, non seulement relancerait le mouvement économique en France et contribuerait à la croissance, mais ça permettrait dans les zones tendues, de réappeler et de embaucher des travailleurs auxquels on offrirait un package.
Eh oui. Voilà un beau débat dont on n'a absolument pas entendu parler encore, mais vous l'aurez entendu sur BFM Business. On espère qu'il prendra pour la présidentielle. Une dernière réaction et puis je voudrais qu'on passe à l'électrification.
Juste pour rebondir, on a créé il y a quelques années au sein d'Action Logement un groupe qui s'appelle INLI, qui ne fait que du logement intermédiaire, et nous avons déjà plus de 100 000 logements. C'est une vraie demande.
Une vraie demande, hein, oui.
C'est une vraie demande de nos concitoyens, c'est une vraie demande des élus. En fait, il suffit d'arrêter d'interdire, d'encadrer, etc. Et déjà, vous verrez, les choses vont repartir. Si on laisse l'argent du logement destiné au logement, je vous assure que ça repartira très vite et ça sera très bon à la fois pour nos concitoyens, pour l'économie. J'ai rappelé les chiffres du BTP. Et si on était amené à pas le faire, je peux vous dire que la problématique de la construction était une crise sociale. C'est devenu une crise économique nationale et urgente. Attention à ce que ça ne devienne pas une crise sociétale. Quand on n'a pas de toit, on n'a pas d'emploi, le lien emploi-logement est terrible et on a arrêté totalement la mobilité parce qu'on n'est plus capable de faire bouger nos salariés.
Reconstruire le parcours de logement des Français, voilà une belle ambition pour 2027. Il y a le logement, il y a l'énergie aussi qui est absolument fondamentale pour notre tissu économique, pour les entreprises, pour notre industrie. Et hier, le président de la République a réuni l'équipe de France, comme il l'a appelé, de l'électricité, de l'électrification. Plusieurs initiatives ont été présentées. C'est quoi l'urgence aujourd'hui? On est, Anthony Morlet-Lavidali, on bénéficie quand même d'un avantage considérable en Europe qui est notre parc nucléaire, une énergie massive, décarbonée et plutôt bon marché. Donc qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour devenir des champions de l'électrification?
Alors beaucoup de choses ont été dites sur le sujet, je crois que sur le point d'arrivée on est tous d'accord, il faut massivement électrifier l'économie française, ne serait-ce que parce que ça réduit nos dépendances aux hydrocarbures et on bénéficie quand même d'atouts assez formidables. Mais peut-être ce qui n'a pas suffisamment été dit, c'est que pour financer cette transition, il faut de la croissance. C'est-à-dire, du côté des ménages, il faut du pouvoir d'achat pour pouvoir financer notamment des véhicules électriques de manière assez massive, parce que si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas d'achat de véhicules électriques. Ah oui. Et du côté des entreprises, il faut quand même du résultat et des marges, parce que c'est bien gentil d'appeler les entreprises à faire des transitions, mais si elles n'en ont pas les capacités financières, on n'y arrivera pas. Donc le premier élément, c'est de la croissance, parce que la croissance permet de financer massivement un effort d'électrification. Ah oui. Et ça, je crois que ce n'est pas assez dit, c'est qu'une transition à croissance zéro, ça ne marchera pas. Ça, je pense que là, il faut quand même dire la vérité.
Ah oui, l'électrification, ça coûte cher. Et qui va payer, Christian Saint-Etienne? Il y a eu une étude d'Asterès, de notre ami Nicolas Bouzou, qui a chiffré le coût de l'électrification, le coût net, hein, net des recettes, à 70 milliards d'euros par an à horizon 2030. C'est une facture considérable. Qui va payer?
Alors d'abord, effectivement, une transition sans croissance, c'est les gilets jaunes à la puissance 1000. Donc on reculera immédiatement. C'est exactement ce qui se passe au niveau du Parlement européen. D'ailleurs, il faut remercier les agriculteurs français qui sont descendus dans les rues en janvier-février 2025, oui. Ce qui a conduit à un changement des équilibres politiques au sein du Parlement européen. On est en train de corriger les erreurs totalement délirantes du pacte vert de 2019.
Le Green Deal européen.
Il faut comprendre là aussi quelque chose de très intéressant. Nous sommes tous pour la transition écologique. Personne n'est assez cinglé pour refuser cette transition. La question, c'est est-ce qu'on le fait par la croissance, par l'investissement technologique ou est-ce qu'on le fait par la réglementation? Donc les États-Unis et la Chine, les deux grands géants de l'économie mondiale, ont tous les deux choisi de faire la transition écologique par l'investissement, la technologie et la croissance. C'était l'objet des mesures prises, l'IRA, par donc le président américain
Joe Biden
en 2022. Je pense d'ailleurs que Biden a été tué à la fin parce qu'il était un peu sénile par Trump, qui dérape souvent lui aussi. Mais je pense qu'il y aura une réévaluation du mandat de Joe Biden, parce que non seulement il a fait cette transition écologique par la production sur le sol des États-Unis, les droits de douane de 100% sur les voitures électriques chinoises, oui. C'est Biden. Les investissements massifs dans la transition écologique, c'est Biden. Une partie de ces mesures ont été cassées par Trump, mais Biden, c'est aussi l'investissement massif dans les microprocesseurs, oui. Avec un plan de 300 milliards d'euros, de dollars, et que Trump est en train d'accentuer aujourd'hui, sans jamais remercier Biden, ça c'est le problème des Américains.
Le jeu de la politique.
Et donc la question, c'est, nous n'avons pas une planification stratégique de cette ampleur.
On en revient toujours au même sujet, hein, c'est de la planification.
Vous prenez par exemple Mistral, on est très content de Mistral. Mais on a eu un débat à l'Assemblée nationale psychédélique à l'automne dernier. On voulait monter les impôts sur les femmes riches. Et à un moment donné, on a calculé que si cet impôt était passé, le patron de Mistral devrait vendre ses actions pour payer l'impôt.
Oui.
Ce qui ne gêne absolument pas les députés. Je rappelle que il y a 25% de fonctionnaires en France, mais 50% à l'Assemblée nationale, et que dans l'autre moitié, il y a énormément de gens, je connais très bien le sujet, qui sont en fait d'anciens attachés parlementaires qui, dans les 20 dernières années, ont pris la place de leurs sénateurs et députés à la retraite. Et donc on a une Assemblée nationale hors sol. Sur les 577 députés, je pense qu'il y a moins de 80 qui ont connu une vraie action dans le secteur privé avec prise de risque. Donc dans ce contexte de décision totalement hors sol, on se retrouve avec une économie sans vision. Et quand vous regardez les décisions et les propositions de Macron, qui a cassé la croissance, hein. Macron a pris des bonnes mesures en 2017-2018, mais depuis c'est une cata totale, hein. C'est une déception pour y compris ceux qui ont voté pour lui. Il laisse un pays extrêmement affaibli et nous nous retrouvons avec une croissance économique de 1%. On ne pourra pas faire la transition avec 1% de croissance. Ah. Et comment on n'arrive pas à relancer la croissance?
Donc c'est vœux pieux, hein, les organisations.
Voilà, on pratique l'incantation. Dernier point, on a dit que aujourd'hui en énergie primaire, l'électricité c'est seulement 30%. Hein. Le reste, 60%, c'est du carbone. Donc on veut faire passer la part carbone de 60% à 30% en 5 ans. Mais c'est totalement délirant parce que, évidemment.
En 10 ans. C'est 2025.
Ouais, ça varie.
On arrivera sera 2035 probablement.
Oui.
Mais
bon. Oui, non, ça arrivera en 2035.
Ça reste très ambitieux, quoi qu'il en soit.
Ça a été répété pour 2030 hier. Et donc la question, c'est quelle est la contrepartie en destruction de production de cette transition accélérée, sachant que même l'Allemagne est en train de repousser l'essentiel de la transition d'ici 2040. Et un point qui est absolument central, l'Allemagne a obtenu il y a 18 mois de la Commission européenne la possibilité de construire jusqu'à 20 gigawatts de centrales électriques au gaz.
Oui, hein, donc, oui il refuse toujours le nucléaire, effectivement.
La France, qui n'a pas de croissance, veut laver plus blanc que blanc avec le résultat d'une paupérisation qui devient de plus en plus insupportable sur le plan sociétal.
Quel est le rôle du logement dans l'électrification? Comment ça se joue dans votre secteur, Bruno Arcadipane?
Avec 1 200 000 logements, vous imaginez que c'est très très important. Simplement, je voulais revenir sur deux sujets avant. Le premier, l'électrification, c'est bien les mêmes qui ont fermé Fessenheim il y a 10 ans.
Tout à fait, cher monsieur.
D'accord. Donc aujourd'hui,
mais c'était du temps de la PPE 2, passés à la PPE 3.
Pourquoi je dis ça?
Programmation pluriannuelle de l'énergie.
Pourquoi je dis ça? Nous sommes trois et on n'a pas arrêté d'asséner la même chose. Stabilité, visibilité.
Et cohérence.
Bon, là, on peut dire qu'il y a un trou dans la raquette. Premier point. Le deuxième point, on est tous, et vous l'avez dit à juste titre, pour la transition écologique, énergétique. Simplement, comment on le fait et qui paye? Je vais vous donner un exemple précis que je connais bien. Le parc d'Action Logement. Le parc d'Action Logement, aujourd'hui, c'est pratiquement 2/3 au gaz. Ce sont des collectifs, donc on n'avait pas d'autre possibilité que de faire, de les chauffer au gaz. Il y a un sujet dont on ne parle jamais, 20% sont raccordés au réseau de chaleur urbain. C'est le plus écologique aujourd'hui.
Oui.
Et on n'en parle pas. Et seulement 15% sont à l'électrique. Si je dois suivre donc les 2 millions de logements décarbonés en 2050, puisque c'est ce qui a été annoncé par le président de la République, je devrais intervenir sur près de 400 000 logements tout de suite. Vous imaginez?
Il va falloir beaucoup d'argent. Effectivement, on n'y est pas encore. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin. Bruno Arcadipane, vice-président du MEDEF, président de l'Action Logement, Christian Saint-Etienne, économiste, il va falloir qu'on rende l'antenne, et Anthony Morlaix, économiste avec ses codes. Vous retrouvez cette émission en podcast et replay sur l'application BFM Business. On se retrouve demain, même heure, même endroit, on revient à 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous. La journée continue ici à KPME.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.